Bonjour Valérie.
Rebonjour Paul.
C'est aujourd'hui que débutent les audiences qui entourent la nomination de la juge Amy Coney Barrett. Qu'est-ce qu'on doit surveiller dans ce contexte difficile où même les sénateurs républicains là ne seront pas tous présents?
Non, exactement, parce qu'on se rappelle qu'il y a des sénateurs républicains qui ont été aussi atteints de la COVID-19, sûrement dans cet événement là, qu'on appelle le Super Spreader, l'événement dans le Rose Garden, où on a justement annoncé cette nomination. Donc, ça débute aujourd'hui, et j'ai l'impression que l'année 2020 est tellement longue que c'est il y a longtemps qu'on a annoncé la nomination de la juge Barrett, mais ça fait pas très, très longtemps, et on rappelle là, qu'il y a eu une controverse autour de ça, parce qu'on est bien sûr tout près de l'élection, et qu'on veut vraiment en accélérer, qu'on se rende à nommer au vote au Sénat pour nommer officiellement la juge Barrett pour remplacer Ruth Bader Ginsburg, qui est décédée là, un peu plus tôt dans l'année. Donc oui, ce qu'on a regardé dès aujourd'hui, alors à 9h, ça commence, chaque membre du comité judiciaire vont pouvoir avoir un 10 minutes pour présenter des arguments pour ou contre, bien sûr, la nomination, et à la fin, Amy Coney Barrett qui va devoir prononcer un discours, et comme à chaque fois, ça filtre dans les médias, donc il y a déjà des médias qui ont des copies, et ce qui transparaît là, vraiment dans son discours, c'est quelqu'un qui est conservatrice, surtout au niveau de l'interprétation de la loi, qu'elle n'est pas là pour faire de la politique, qu'il y a des gens qui ont ce rôle-là, donc elle ne sera pas dans un rôle d'interprétation comme on a vu d'autres juges plus peut-être libéraux le faire, l'interprétation de la Constitution, elle l'a mis très très clairement, vraiment là, elle veut y aller avec qu'est-ce que dit la loi et qu'est-ce que la loi devrait faire. Elle dit qu'on ne peut pas régler tous les problèmes non plus aux États-Unis avec la Cour suprême, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc c'est un peu tout ça qu'on va regarder.
Alors, ça risque d'être plus, conservateur comme spectacle, si vous passez l'expression, que la nomination du juge Brett Kavanaugh, où les mêmes audiences avaient tourné presque au cirque.
Ah, mon Dieu, oui, c'est vrai, parce que le juge Brett Kavanaugh, pour rappeler aux gens qui étaient accusés d'avoir agressé sexuellement une femme là, il y a plusieurs années auparavant, et ça avait été là, extrêmement controversé comme nomination. Ça va l'être encore, mais pas pour les mêmes raisons. Et là, les démocrates devront être très, très prudents, Paul, parce qu'on ne doit pas attaquer sa religion. Vraiment, là, si on fait ça, ça pourrait nuire énormément à l'élection, parce qu'on va les accuser, finalement, de pas être des croyants, parce qu'on le sait, hein, la juge Barrett est très conservatrice, elle est très religieuse, et on ne doit pas l'attaquer là-dessus en disant que la religion va prédominer par rapport à ses politiques. Ça ne serait pas une bonne stratégie.
Alors, ça va nous permettre de voir comment va se comporter la colistière du candidat Joe Biden, c'est-à-dire Kamala Harris.
Oui, un bon timing, hein, comme on dit, pour Kamala Harris, qui, elle, est en pleine course, justement, pour la présidente, comme elle est la colistière de Joe Biden. Et on le sait, elle performe très, très bien. Hein. On l'avait vu avec Brett Kavanaugh, on l'a vu dans plusieurs autres audiences du comité judiciaire. Elle est vraiment bonne pour interroger. Donc, ça va être un moment pour briller, je dirais, pour elle. Elle va pas être présente, finalement. Elle va être dans son bureau du Sénat à Washington, parce qu'en raison de la COVID-19, elle trouve ça complètement imprudent qu'on ait des audiences physiques, parce qu'il y a des sénateurs qui vont vouloir être sur place. Et là, on fait des pressions pour qu'on teste les sénateurs pour la COVID à tous les jours et qu'on prenne vraiment les plus grandes mesures pour s'assurer qu'il n'y ait pas de contamination. Parce qu'imaginez si le virus entre au Sénat et qu'il contamine ces gens-là. Il y en a beaucoup qui ont plus de 60 ans, plus de 70 ans, plus de 80 ans.
Mais ce serait une nouvelle éclosion politique, est le cas de le dire, là, à trois semaines de l'élection.
Et oui, parce qu'ils veulent aussi tenir un vote, eux, la semaine prochaine, pour la juge Barrett. Alors, c'est pas le temps non plus de prendre des mesures imprudentes.
Le docteur Anthony Fauci, on peut dire que c'est la figure de proue, celui qui symbolise le plus la stratégie américaine pour lutter contre l'arrivée du coronavirus et ensuite la COVID-19. Hier, le docteur Fauci a vivement critiqué l'équipe de la campagne de réélection du président Trump en disant qu'on utilisait dans une publicité ses propos, mais que ces propos-là ne devaient pas être utilisés, c'était hors contexte.
Oui, exactement, parce que le docteur Fauci est vraiment fâché de cette publicité. Je vais vous la faire entendre dans un instant, mais avant toute chose, parce qu'on dit, il dit que, écoutez, dans toute sa carrière, jamais il a voulu prendre parti. C'est quelqu'un qui est indépendant, qui est là pour servir les Américains. Alors, il a dit, on a pris mes propos hors contexte, que le président et sa campagne de réélection n'avaient pas le droit de faire ça, que c'était de mauvaise foi. On va entendre un extrait de la publicité, puis on pourra s'en jaser après.
President Trump is recovering from the coronavirus, and so is America. Together, we rose to meet the challenge, protecting our seniors, getting them life-saving drugs in record time, sparing no expense,
President Trump tackled the virus head-on, as leaders should.
I can't imagine that anybody could be doing more.
Alors là, voilà la voix du Dr Fauci qui dit « Je ne peux imaginer, Valérie Beaudoin, quelqu'un qui peut faire plus pour lutter contre la pandémie. » Enfin, oui, c'est ça, contre la pandémie.
Exactement, mais c'est pris un peu hors contexte dans une entrevue qu'il a donnée. C'est d'ailleurs comme ça qu'on se défend du côté de la campagne du président Trump en disant « Écoutez, il a donné ça, cette entrevue-là à la télévision nationale, donc on peut prendre cet extrait. » Il parlait de la réponse fédérale, bien sûr, à la lutte à la pandémie, mais c'est quand même un peu ironique et je crois qu'on l'utilise justement, Fauci, parce que la sympathie d'une partie du public américain qui a moins de crédit, qui croit moins peut-être le président et ses allégations, donc on utilise Fauci pour rassurer cette frange de la population quand on sait très, très bien, et Paul, on en a souvent parlé ici à l'émission, que Fauci et Trump ne s'entendent pas toujours
mais
bien,
non,
que Fauci... Il doit même le contredire hein, très, très souvent à la télévision américaine.
Mais c'est vrai ce que vous dites, Valérie. D'autant plus que je suis dans le passage du livre de Bob Woodward, où le président américain lui a accordé 18 entrevues.
Oui.
À un moment donné, l'auteur Bob Woodward, Valérie, dit « Est-ce que vous vous entendez bien avec le docteur Fauci? » Il dit « Je lui ai presque pas parlé. »
Ben oui.
Mais il dit ça de façon...
Comment c'est possible?
Ben oui, il dit « Je suis trop occupé pour en parler. » Et là, Woodward, le journaliste, dit quoi? Il y a quelque chose d'autre qui est plus important que la pandémie, le nombre de victimes, le nombre de transmissions. Vous n'avez pas le temps de parler au docteur numéro un, en quelque sorte, aux États-Unis. Il dit « Je ne parle pas souvent. »
Je pense qu'il n'avait pas le goût de lui parler souvent. Je pense que c'est plus ça. Il contredisait beaucoup le président.
Alors, on va terminer sur le voyage du président. Et là, Valérie, je pense qu'il y a trois états du président à considérer. D'abord, est-il guéri de la COVID-19? Est-il contagieux encore? Et lui a dit, il a ajouté, je suis immunisé désormais contre le coronavirus.
Oui, exactement. Et même Twitter là, qui a mis un avertissement encore une fois sur ce tweet où Trump disait être immunisé comme on n'a pas de preuve qu'il l'est vraiment. On a mis un avertissement pour les gens qui utilisent la plateforme que c'est peut-être pas la vérité qui est présentée parce que le président va aller dans des rassemblements. Et au-delà de sa contagion à lui, c'est quand même dans un contexte assez particulier d'avoir des gens qui vont se rassembler par centaines ensemble. Alors, on en a parlé hier, mais pour rappeler, il sera ce soir en Floride, demain en Pennsylvanie et par la suite en Iowa. Et c'est le seul État là, où je vous dirais qu'il est à égalité avec Joe Biden, c'est en Iowa. Dans les deux autres États, il semble tirer de l'arrière pour l'instant. Donc, c'est très, très important pour lui qu'il soit vraiment en campagne sur le terrain.
En quelques secondes, lui, le candidat démocrate Joe Biden, lui, s'en va en Ohio.
Oui, exactement. Il sera en Ohio aujourd'hui et assez particulier, sa femme Jill Biden sera en Géorgie et au Texas mardi. Donc en Géorgie aujourd'hui, au Texas mardi et Joe Biden qui sera lui aussi en Floride mardi. Donc c'est tous des États qui ont été gagnés par Donald Trump en 2016. Donc on veut être présent pour peut-être changer les choses.
Et n'oubliez pas que l'Ohio, un État que Mme Parisien aime beaucoup, on l'a traversé au complet, Thérèse et moi ensemble. Vous avez beaucoup aimé la ville de Cincinnati.
Oui.
C'est drôle, mais en tout cas, c'est comme ça.
Je sais.
N'oubliez pas une chose, Valérie. L'Ohio, depuis longtemps, a toujours voté gagnant. C'est-à-dire, a toujours choisi celui qui allait devenir président.
Exactement. Et un président républicain doit gagner l'Ohio, c'est ce qu'on dit. Alors, à voir si Trump le gagnera et gagnera la présidence. Peut-être qu'on va changer tout ça, on verra.
Merci,
et
Valérie.
Est-ce qu'il y a un mini espoir que le débat soit reprogrammé?
Écoutez, ça a été annulé, donc normalement, il n'y a pas d'espoir, là, à moins que la commission décide de changer d'idée. Et Biden a déjà organisé, lui, un autre événement, donc un town hall à ABC. Alors, normalement, ça va être le 22 octobre et il n'y a pas d'autres dates qui sont prévues à l'agenda là, pour les débats présidentiels.
Il reste 3 semaines avant l'élection. Merci. Et Thérèse, un jour, on aura à prendre le temps. Pourquoi vous avez tellement aimé Cincinnati?
Je me le demande encore, mais j'ai aimé ça.